Dieu fait pour tout. Dieu fait tout pour le bien. Mais Dieu ne fait rien automatiquement. Dieu a créé le bien et le mal. D'accord ? Lumière, obscurité. C'est quoi obscurité ? Dieu se cache. Le mal signifie que Dieu se cache. Il a laissé une place à ce qui semble être que Dieu ne gère pas le monde. Il le gère complètement. Mais Dieu fait comme s'il ne le gère pas. D'où l'obligation pour nous, juifs, d'aller faire ce qu'il appelle Ishtadlut. Ishtadlut, c'est faire la comédie dont j'ai parlé dans un cours précédent. Mais aussi, il y a une Ishtadlut qui est donc technique. Je dois jouer la comédie sur terre, mettre le canal qui permettra à Dieu de m'envoyer la santé, de m'envoyer mon mazal, de m'envoyer la parnassa, le gagne-pain. Il y a aussi une Ishtadlut qui s'appelle des tentatives, jouer une comédie, pas jouer une comédie, faire une tentative, c'est la vraie tentative de mystique, de parler à Dieu. Et c'est nécessaire. Maintenant, les gens se trompent et croient que, par exemple, au niveau de la parnassa, Dieu, il fixe à Rosh Hashanah combien d'argent tu auras. C'est vrai, il ne fixe pas la somme. Il fixe 20 sommes. Si tu fais rien, tu auras cette somme. Si tu donnes la tzedakah, tu auras une autre somme. Si tu pries, tu auras encore une autre somme. Si tu fais le crétin, tu auras encore une autre somme. Toutes ces sommes-là sont fixées. Ta somme, elle est fixée. C'est quoi ta somme? C'est un arbre généalogique de sommes possibles et imaginables. Tu fais juste un doute, tu n'auras pas juste un doute, tu n'auras pas. C'est certain. Tu fais prière, beaucoup moins. C'est... Alors, faut pas non plus devenir complètement fou et prier sans cesse. Après, la loi, comme la Ishtadlut, au niveau technique, on va expliquer, mettre le canal, elle doit être normale. On doit bien la faire de façon normale. Je ne dois pas compter sur le miracle. Je dois établir une parnassa, un canepin qui est normal. Je dois me soigner normalement. Je dois faire des choses normales pour me marier. D'accord ? Tout ce qui est normal, là aussi, au niveau prière, il faut prier normalement. Si tu as besoin beaucoup d'aide de Dieu, fais une petite prière. Eh, Dieu aide-moi. Voilà, j'ai prié. Non. En larmes. Et beaucoup. Maintenant, c'est pour un petit truc de rien. Ok, une prière. Les gens, des fois, ils oublient que Dieu est infini. Et on a besoin de lui pour n'importe quel petit détail. Tu cherches une place à parquer. Tu as perdu maintenant la sucette du gosse qui est en train de pleurer et de te faire un trou dans les oreilles. Tu, je sais pas, n'importe quoi. Tu changes de prière pour n'importe quoi. Dieu aide-moi maintenant. Dieu aide-moi à parler. Aide-moi à réussir mon plat pour une femme qui fait son plat. Aide-moi à donner un bon cours. Dieu aide-moi à comprendre la Gemara. Sans cesse. D'abord, ça nous rapproche de Dieu. Pardon ? Ça ferme le contact. Maintenant, il y a une question qui est posée dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qui est plus valable ? Est-ce qu'il est plus valable ? Au niveau des Tehilim, c'est marqué. Tehilim, c'est le texte numéro 1, dépanchement de l'âme vers Dieu. D'accord ? David Ameller, il a écrit les Tehilim. C'est l'expression la plus grande du juif d'amour de Dieu. T'as pas de livre qui exprime aussi bien, à moins que quelqu'un il sait comment parler à Dieu. Mais en tout cas, des textes qui sont écrits, c'est l'expression de notre amour le plus grand qu'il puisse y avoir. David, il était branché avec Dieu, on ne peut pas plus, d'accord ? Alors, question posée dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qui est préférable ? De faire beaucoup de Tehilim, mais moindre en qualité, ou moins, c'est bien de finir Tehilim. Il y a 150 chapitres, celui qui peut finir, ça prend 3-4 heures, c'est finir le livre Tehilim, c'est pas peu, c'est une chose qui a une grande valeur, c'est certain. Ou il vaut mieux faire peu de Tehilim, je vais faire en vrai peut-être la moitié, le quart, mais avec Havana, avec intention. Shulchan Aruch, il tranche, avec attention, c'est mieux. La prière, c'est important, la qualité. La prière, c'est ma relation avec Dieu. C'est une relation, c'est comme ta femme. Ta femme, tu peux lui dire, je t'aime. C'est bien. Dans une maison, il faut qu'il y ait au moins 50 je t'aime par jour, minimum, des compliments, t'es sympa, tout ça. Mais si tu la prends comme ça, tu lui dis, chérie, je voulais te dire, tu ne peux pas imaginer sincèrement ce que j'ai pour toi. Ah, tu l'as fait pleurer sur place. Tu comprends? Ça a plus de poids. Même chose avec Dieu. T'as la relation qui est le standard. On est avec Dieu toute la journée. Puis il y a des moments où il faut pénétrer. Il y a des murailles. Tous les péchés qu'on a faits, tout notre éloignement de Dieu, ce sont des murailles en Dieu et nous. La prière est un moyen de casser ces murailles. Maintenant, la prière avec intention, elle casse beaucoup mieux. Les portails des larmes ne sont pas fermés. Les portes sont fermées. Tu pries, ça arrive une porte qui est fermée. Il faut défoncer. Avec des larmes, ça passe. tu mérites pas, ça passe. Maintenant, est-ce que forcément Dieu va maintenant m'écouter? C'est pas toujours que Dieu écoute tout ce qu'on dit, mais la prière, elle est passée. Qu'est-ce que elle n'est pas perdue dans un monde, d'accord? Il n'y a pas un ange du côté négatif qui l'a pris, hop, d'accord? Ça arrive des choses pareilles. Quand tu fais avec larmes, parce que les larmes, c'est l'expression de la sincérité. Je ne peux pas avoir des larmes de crocodile, faire comme si je pleure. D'accord, c'est la sainte. La vraie larme, d'accord.
Mais il y en a qui pleurent facilement en regardant un Bambi, il y en a d'autres, c'est très dur de pleurer.
Ça fait rien.
Bah, quand on n'arrive pas.
Uniquement une larme, c'est, ça peut être intérieur, c'est pas...
Oui, ok, c'est certain que Dieu regarde maintenant la valeur de la prière. C'est marqué à Ramana Libaba, et Dieu, il veut le cœur. Dieu, il sonde le cœur. Mais quand l'épanchement du cœur est tellement grand que t'en arrives aux larmes, ça veut dire ce que ça veut dire. À Rosh Hashanah, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de pleurer. C'est un jour de jugement. Il ne faut pas pleurer. Rabbi Noir, il dit c'est vrai. Mais si quelqu'un n'arrive pas à pleurer pendant Rosh Hashanah, il se veut dire que son âme est détruite. C'est pas au niveau. Il y a un moment où on est jugé à Rosh Hashanah, c'est le moment où on est le plus touché. Dieu, dans sa grande miséricorde, il nous juge au moment où on est le plus touché. À ce moment-là, dit Rabbi Noari, c'est normal, tu dois être en pleurs. Tu es en train de te faire juger maintenant, tu regardes ce que tu as fait. Il ne faut pas dire Dieu, j'ai péché, etc. et pleurer. Ça, on le fait à Yom Kippour. On ne doit pas essayer, on doit pas faire de tentative de pleurer. Ça, c'est à Yom Kippour. Rosh Hashanah, on n'en fait pas. Mais ça doit exploser. Maintenant, quand ça n'explose pas, ok, alors il y a un problème qu'on n'est pas encore suffisamment pur. Il faut une bonne préparation. Bien, on arrive, c'est marqué. Le prochain mois, c'est Av, n'est-ce pas? C'est le mois qui avant Eloul. Alors on dit Aleph Bet, le mois de A, c'est écrit Aleph Bet. C'est le rachet et vote, c'est l'acrostiche, l'abréviation de Eloul Ba. Eloul arrive. Messieurs, nous sommes en Tammuz. Dans un peu plus de 10 jours là, hein, dans moins de 10 jours, on commence les 3 semaines déjà. Après, tchitchat, il y a 2-3 semaines encore, les vacances, et hop, Eloul, Kel Melech Yoshev, Kiseh Hamim, faut pleurer sur nos péchés, et après, jour du jugement, et on y est. Ça commence très bientôt la préparation. C'est pas mal, jamais ça commence. On en reparlera. Si tu te prépares bien, alors le jour prochain, tu arrives à pleurer. Oui, il y avait une question.
Pour revenir sur la prière du parking, même ça, il faut la faire à voix haute. Ça ne suffit pas de penser très fort.
Comme avec ta femme. Beaucoup de maris font une erreur grave dont les femmes souffrent terriblement. Ils disent jamais, ça leur écorche la bouche, de dire à leur femme qu'ils les aiment, un compliment. Alors quand elle arrive enfin à lui, parce qu'une femme ne dit rien, d'accord? Mais à la fin, quand elle arrive quand même à le sortir, alors lui il répond, mais tu sais très bien que je t'aime. Tu sais très bien, pourquoi je le dirais?
Ouais, mais il n'arrive pas, c'est parce qu'il est gêné, parce qu'il est orgueilleux. Pourquoi il a tant de mal à
dire? Non, on va commencer à parler de Shombayt, d'accord? Il y a beaucoup de raisons qui peuvent provoquer ça. D'abord, c'est que quand lui-même n'est pas reçu de l'affection, il ne s'est pas en donné. C'est une question d'habitude. C'est des fois aussi rabaissant. Ce qui n'est pas le cas, c'est tout dans l'imagination. Il n'a pas vu ça chez ses parents. Donc, il a tendance à réitérer ses mouvements, ses comportements. Mais c'est une chose qui est fausse. Minimum 40-50 mots d'estime, d'amour par jour, c'est le standard minimal. Et si on fait une remarque négative, ce qui est des choses qui sont tout à fait légitimes dans un coup, parce que pas toujours, il y a des choses qu'on veut dire, on va faire une remarque constructive, ce qui s'appelle, d'accord? Quand je dis négative, c'est une remarque positive, constructive, d'accord? Rien de négatif. Chérie, je pense qu'ensemble, ça serait mieux qu'on fasse ainsi, d'accord? C'est elle qui a tout fait pas bien, mais ce serait bien qu'ensemble, nous fassions ainsi, très gentil. Alors quand tu fais une remarque pareille, ce qui veut dire que tu donnes un feedback négatif, il faut auparavant au moins 99 mots positifs. Ça passe. Et dans un couple où il n'y a pas de mots positifs, qu'est-ce qui se passe? Quand tout va bien, on dit rien. Dire que je t'aime, pas besoin, tu sais très bien. Elle m'a fait à manger, ben, c'est normal. Elle a fait la maison, ben, c'est normal. J'amène l'argent à la maison, tout va bien. Rien besoin de dire. Quand ça ne va pas, ben, on doit le dire. Quand ça ne va pas, on parle. Il n'y a rien de meilleur pour empoisonner un couple. Empoisonner l'ambiance du couple. On ouvre la bouche que pour dire négatif. c'est terminé. C'est la fin de l'amour, c'est la fin de tout. Le standard, quand tout va bien, 50 fois. Quand on vous dit un truc négatif, 100 fois. Alors après, on peut passer facilement les choses négatives aussi. Les remarques constructives, positives. D'accord ? Donc les gens ont des blocages. Maintenant, au niveau de la prière avec Dieu, idem. Il faut s'habituer. Il y a un gros problème. Il y a un très gros problème dans le monde religieux. Vraiment très gros problème. C'est une chose qui nous fait beaucoup de mal. C'est qu'aujourd'hui, on est très grand en halakha. Nos ancêtres étaient pas aussi, ne connaissaient pas aussi bien halakha que nous savons. Que nous, aujourd'hui. On est très grand dans le chesed, des désirs, des organisations de chesed dans le monde entier aujourd'hui. Ça marche très bien. Et on est très grand à tchouva, tout ça. Il y a une chose qu'on oublie. À quel point Dieu nous aime. À quel point Dieu est proche de nous. À quel point Dieu, il adore chaque juif, que si on se rendait compte, on deviendrait complètement fou de l'amour de Dieu. Quotidien, au millimètre, Dieu s'occupe de nous. Il nous au millimètre. Et quand on se rend compte un tout petit peu de cela, alors directement, on est branché avec Dieu et l'aide, de facto, devient plus grande aussi. Si toi, tu n'es pas en relation avec Dieu, tu vas vous reprendre le couple, d'accord ? Si ta femme te dit « je t'aime », et toi, tu l'ignores, tu sais, t'entends pas ce qu'elle te dit. Dieu nous dit « je t'aime », tous les jours. Le jour, quelqu'un vient ici, un avraire. Moi, comment ça va ? Il me dit « Baruch Hashem Zift », en hébreu, il me dit « Baruch Hashem, mal ». Je lui dis « c'est bien, au moins il dit « Baruch Hashem », d'accord ? C'est mal, bon, on bénit Dieu pour le mal comme pour le bien, tout vient de Dieu ». Mais tu te rends compte que ce matin, tu vois avec les deux yeux. Imagine pendant 6 mois, tu as un problème à l'œil et tu ne vois pas. Et il y a un doute, est-ce que tu vas recouvrir la vue de cet œil, oui ou non? Et aujourd'hui, on t'a annoncé que oui. Comment il chante le type? Comment il va en gambadant dans la rue? Je vois. Et c'est comme ça toute la journée, on ne se rend pas compte des chassadim. C'est une histoire d'amour. Tout Dieu nous donne, et on est les plus grands ingrats du monde. Ingrats, on ne voit pas. Que quand ça ne va pas et ça revient bien, on voit. C'est malheureux.
C'est lui qui nous a donné des yeux, quoi. C'est lui qui nous a donné des yeux, les yeux c'est fait pour voir, hein. C'est nous a donné.
Il peut donner un œil, il fait ce qu'il veut.
Ouais, mais il nous fait marcher les deux, c'est tout.
Hein?
Il nous a donné deux yeux, il nous fait marcher les deux.
Il ne te donne pas de yeux, toi t'as raison, allez.
On a rien demandé, on n'a pas dit que...
Ça non, alors soit sans les yeux. Tu serais d'accord?
Bah,
pas, Dieu t'a créé. Il peut te créer avec des problèmes.
Ouais.
Il peut créer avec des problèmes, tu crées sans problème. Va à l'hôpital, affaire-toi à l'hôpital. Tu reviens, tu fais une fête. C'est un exemple. C'est un petit truc qui va pas, un petit truc minuscule dans le corps. Tout va plus. Je suis un peu enrhumé. Ah! Quelques gouttes qui tombent. La vie est plus une vie. Et c'est rien. Mais c'est rien. C'est même pas besoin d'en parler. C'est casse-pieds. Et quand on rajoute, ça va bien. On se rend pas compte. Vu qu'on est habitué à ce que Dieu nous donne, et là, on fait un gâté, d'accord. Tout lui revient et voilà. Lui ne doit pas dire merci. Et il faut commencer à changer. Alors comment on change ça? D'abord se rendre compte et se brancher avec Dieu. Alors je reprends l'exemple. Si maintenant ta femme te dit sans cesse je t'aime, donc tu nous envoies des actes d'amour, et nous on fait la sourde oreille, on n'entend rien. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Ok, si c'est comme ça, ben, débrouille-toi tout seul. Ou bien, pire, ah, tu vas voir que j'existe. D'accord, il y a un midrash terrible qui dit que lorsque Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils sont allés dans le désert, ils ont commencé à se dire, est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Bien sûr, ils croyaient en Dieu. Et c'est à quel point l'Ashgacha, à quel point Dieu, il nous protège, il est là parmi nous, l'Ashkina, la présence divine. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a amené Amalek. Chazal dit à quoi ça ressemble? Un papa qui transportait son fils. Vient un loup, le père met son fils derrière lui et se bat contre le loup, élimine le loup. Par derrière vient un lion, le papa il met le gosse devant et se bat, il tue le lion. Il le protège, comme ça nous on sort d'Égypte. Il y a la mer, il ouvre la mer. L'armée égyptienne, il est cool. On a faim, il y a à manger la manne, on a soif, il y a le puits de Myriam, tout ce que tu veux. Aux petits oignons. Après tu poses la question, Dieu il est où? Le gosse, il demande, tout coup, il voit quelqu'un, il dit, d'y voir. Tu n'as pas vu mon père? Le père dit, comme ça, je te mets devant le chien, qui vient et qui te morde. Comme ça, Dieu a fait, Amalek est venu. Donc, ou bien, nous on se rend compte des chassadim de Dieu, et on devient des amoureux. Comprenez, je le dis souvent, mais je répéterai. Il y a une mitzvah de croire en l'unicité de Dieu. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. La version de la Torah, c'est une mitzvah de la Torah. Dieu existe, il est un. Profession de monothéisme juif. C'est la base. Sans ça, il n'y a plus rien. Ok, alors Dieu existe. Et alors? Verset d'après. C'est le corollaire, c'est le immédiatement juxtaposé, c'est le nécessaire. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. C'est pas des mots. De tout ton cœur. De toute ton âme, tu es prêt à mourir à Kiddush Hashem, de donner ton âme par amour de Dieu. Tout ton pouvoir. Durant la Shoah, qui c'était? C'était le père du Rosh Yeshiva aujourd'hui, de Mir, je ne sais plus. Un père d'un Rosh Yeshiva, un grand tzaddik. Durant la guerre, les nazis rentrent et il y avait une usine là-bas où travaillaient des juifs. Et il attrape ce juif-là, il le met, il y avait une grande scie comme ça, scie électrique. Il le pose sur la scie comme ça, pour le scier en deux. Et lui, il se préparait à mourir à Al-Kiddush Hashem. Il a eu tout à coup une lumière, une joie tellement grande. Je m'attendais à Avta, je vais mourir, Hashem, par amour de Dieu. Il était, le nazi a dit, tu crois que je vais te faire plaisir comme ça, allez, debout. Il a sorti de la scie. Il était tellement heureux, le juif allait mourir, ah non, je vais pas te faire plaisir, tiens. Reviens. Souvenez. C'est certain que quelqu'un qui a la kavana, l'intention de mourir de Shachem, on lui compte comme cela. Quelqu'un voulait faire la mitzvah, il n'a pas pu la faire, on compte qu'il l'a fait. Donc, si maintenant Dieu nous envoie sans cesse, et nous on se rend compte de cet amour de Dieu, on se branche vers Arta, c'est la plus grande chose qu'il y a. Il n'y a pas de plus belle chose. C'est le but de la création du monde, l'union de l'humanité avec Dieu. Ce fait, c'est une histoire d'amour. Je répète ce que je dis souvent, Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, c'est le saint des saints. C'est une histoire d'amour qui est un exemple de l'amour de Dieu entre amis. C'est une histoire d'amour terrible, belle, romantique. C'est ça. Maintenant, si il n'y a pas ça, alors il y a deux solutions. Ou bien, comme la femme, elle te voit des actes d'amour et tu ne réponds pas, tu dis, ok, débrouille-toi tout seul. Dieu te dit, écoute, je vois que moi dans ta vie, je n'existe pas. Débrouille-toi. Alors Dieu est bon, malgré tout, il nous aide, mais beaucoup moins. Quelqu'un, il s'inquiète pour sa parnassa, il s'inquiète pour son mazal, il s'inquiète pour, il n'en peut plus, tout ça. Et tu m'as oublié, moi, mais je m'occupe de toi. Je m'occupe de tout, de quoi tu t'inquiètes? Tu m'as oublié, tu veux débrouiller sans toi, débrouille-toi sans moi. Débrouille-toi sans moi, comme ça Dieu lui dit, vas-y, débrouille-toi sans Dieu. Que si maintenant tu es en prière sans cesse, tu es en branchement avec Dieu sans cesse, et bien Dieu il aide. C'est certain. Troisième degré beaucoup plus grave, Dieu lui dit, oh je t'aime, j'existe. Et le type, rien du tout. Et des fois ça arrive, hélas, avec des gens non religieux, ça arrive avec les religieux aussi, mais on le voit souvent. Dieu envoie une chose triste. Et tout à coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se met à prier. Et comment on a vu des gens qui ont fait de joie comme ça, à cause des tuiles? Il y en a aussi. Fait de joie ou par amour, ou par tuiles. C'est aussi un moyen. Dieu. Et Dieu nous aide à ce point-là. Il y a un quatrième niveau que Dieu, il n'aime plus. C'est-à-dire que ceux dont Dieu a la haine, c'est marqué, c'est pas une haine viscérale, on parle maintenant, qui sont très très éloignés de Dieu, alors Dieu ne veut plus les voir, il leur donne beaucoup beaucoup de bien dans ce monde-là, qui passe souffrir, pour qu'après la mort, il n'y a plus rien. Je t'ai payé dans ce monde. Je voulais te donner moi tu ne me connais pas, tu veux pas de moi, tu veux quoi? Tu veux des bagnoles, tu veux des dollars, tu veux une villa, tu veux la mère, des filles, tiens, prends, voilà, calme-toi. Et après, tu n'as plus de voir. Dans le monde de vérité, tu n'as plus rien. Ça, c'est terrible. Les gens, les ordures, et tout va bien loin. Non, non, mais c'est le quatrième niveau, d'accord, qu'on souhaite à personne.
Concernant l'unification, ça veut dire quoi quand on dit avant la prière la vod de Yachedecha, et Shemcha, et quand on fait tous les Shem Yichud, ça veut dire quoi qu'on travaille l'unification du jeu?
Ça rejoint ce dont nous parlons. Notre éloignement de Dieu. On appelle cela l'exil de la Shrina. L'exil de la présence divine. C'est-à-dire que quand je ne sens pas de façon claire la présence de Dieu, je ne vis pas avec Dieu. Donc Dieu vraiment, il n'est pas là quelque part. Il s'éloigne, il repart. Quand je vis avec Dieu, je suis amoureux de Dieu, j'ai la crainte de Dieu, je respecte Dieu. Je vis, je pense à Dieu, je pense. Il faut y penser. Sans penser, il n'y a rien. Pensez beaucoup. Alors, il rentre dans ta vie, il est là. Ça veut dire maintenant que toutes tes parties les plus inférieures même, tu les as branchées, tu les as unifiées avec la divinité. C'est ça le but. Dieu veut unifier toute l'humanité, toute la réalité à lui. C'est le but total de l'époque messianique, tout ce qui passera à la fin des temps.
Comme un grand Adam-Rishon.
C'est ce qui devait se passer lorsque le premier homme a été créé. S'il attendait jusqu'à Shabbat, alors il s'unifiait à Dieu.
Mais là on dit, c'est pas unifier Dieu, on dit unifier son nom.
Alors, c'est exactement ça. Quand on dit unifier son nom, c'est exactement cela. La Shrina correspond à la dernière lettre du nom de Dieu, le Hei. On dit qu'elle est en exil, ça veut dire qu'elle est séparée. Tu prends le mot Yehuda. Yehuda, c'est juif dans l'hébreu, d'accord? Yehudi, Yehuda, la tribu de Yehuda. Le peuple juif aujourd'hui, ce sont les quatre lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, et entre la troisième et la quatrième, il y a la lettre Dalet. Yud, Hei, Vav, trois premières lettres du nom de Dieu, Dalet. Dalet, c'est pauvre. Et Hei, c'est-à-dire que la Shrina, elle est pauvre. Elle est en exil. Elle est symbolisée par la lune, qui reçoit sa lumière que du soleil. Elle n'a rien par elle-même. Mais c'est la malchoute aussi, la royauté, parce que la royauté dans les sphères, c'est la dernière, c'est la royauté. Ça correspond à la Shrina, la présence divine, ça correspond au peuple d'Israël, parce que nous portons le nom de Dieu. Nous sommes en exil, comme Dieu est en exil. Et la malchoute, la royauté, elle n'a rien par elle-même. Elle ne fait que refléter toutes les forces qu'il y a. Il y a des forces de bonté, des forces de rigueur, des forces de Tiferet, beaucoup de sortes de forces qui sont à l'état potentiel. Tant que le roi n'est pas roi, il ne peut pas les réaliser. Le roi, il existe, mais il est en prison. Il est parti, il est en exil. Quand le roi devient roi, alors toutes ces valeurs qu'un roi, il réalise dans le pays qu'il est là pour gérer. De même, la royauté de Dieu, on dit qu'elle est en exil. Et on voit bien que le monde aujourd'hui, il va comme ça, dans tous les sens. D'accord ? Comme moi, dans mon petit travail personnel, que je fasse une mitzvah, mitzvah vient du mot aussi, ça va être union. Je m'unifie à Dieu. Je fais un acte maintenant qui a une portée éternelle, je fais un acte de Dieu sur terre, j'amène Dieu sur terre. J'amène Dieu sur terre, et comment? Et d'un autre sens, je vais monter maintenant toute une partie matérielle vers Dieu. Ma pensée, ma parole, mes actes, mon corps, tout se branche avec Dieu. Ça s'appelle un yichud. Une union. Alors on est en train d'unir les lettres du nom de Dieu, c'est-à-dire qu'on est dans la réalité, on est en train de nous unir nous-mêmes, l'humanité, le monde, parce que tout le monde est écrit pour l'humanité, donc c'est tout le règne minéral, végétal, animal qui est concerné aussi, par ricochet, parce que leur but c'est quand même l'humanité. Donc quand je fais un acte maintenant où l'humanité se branche par mon biais, à Dieu, je fais un acte de rapprochement de tout. Et si tout le monde, tous les bons juifs vont faire cela, alors il y aura un dévoilement de Dieu extraordinaire parce qu'il y aura l'usine de Dieu sur terre et c'est la fin du mal. Ben, ça jamais très bientôt.
Alors comment on travaille la Karatatov dans la Kadesh? C'est un travail, moi, c'est un vrai travail. Parce que même si on prend conscience après dans les actes, alors ça se reflète pas forcément.
On va parler d'une chose qui est profonde. Quand on parle justement des voies de conduite de Dieu, que Dieu a sur terre, ça correspond en fait, c'est marqué que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Et nous, en nous, on a une similitude entre nos corps, on va dire, notre façon d'être, et les voies de conduite de Dieu. On voit ça dans Patach Eliyahu. Patach Eliyahu, c'est pas son mot, c'est une partie du Zohar, d'accord? Patach Eliyahu, Zahul Atobama, etc. Antu, etc. Il y a tout un texte qu'on a en araméen, hein, c'est du Zohar. Et il te dit chaque partie du corps correspond à quelle partie de la divinité, comment c'est, des voies d'action de la divinité. Le bras droit, c'est Chesed. Le bras gauche, c'est Din. Le corps, c'est Kif Erek. Le pied droit, c'est Netzar. Le pied gauche, c'est Hod. L'organe sexuel, c'est Yesod. Et le bout de l'organe sexuel, c'est Malchut. Maintenant, la tête, ça c'est les sept du bas. Il y en a trois hauts qui s'appellent, ou bien on l'appelle Keter Chochma Bina, ou Chochma Bina Vedat. Chochma Bina Vedat. Chabad. L'origine de Chabad, ça vient de ça. Chochma, Bina, Vadat. Ça, c'est la manière que nous avons de travailler la tête. Comment ça fonctionne? Chochma, c'est tout simplement le savoir. L'information. Je te dis, Dieu te fait du bien. Ok, j'ai l'information. Cette information, elle n'est pas plus que ce qu'elle est. C'est tout. Pour la renforcer, il faut travailler la Bina. Bina, ça vient du mot en hébreu hitbonenut. Hitbonenut, c'est réflexion intérieure. L'information, ça on peut traduire par le savoir, d'accord? L'information, le savoir. Maintenant, il y a l'information, je vais la travailler. Chochma correspond à l'homme. Dans les mondes célestes, ça fonctionne toujours masculin, masculin, féminin. Masculin, c'est Chochma. Féminin, c'est le côté. Bina, c'est le côté féminin. On dit que les femmes ont plus de Bina que les hommes. Sont plus intérieurs, c'est le travail intérieur, c'est l'intériorité. L'homme, il va donner à la femme la semence, le petit spermatozoïde qui va la féconder. Mais c'est la femme qui va faire tout le travail intérieur pour arriver et donner le bébé. Et le bébé qui sort, c'est Dat. Ça, c'est le produit fini. C'est exactement la réponse à ta question. Attends, j'ai une information, je sais maintenant que Dieu, tu dois tout. Chez moi, c'est très éthéré, c'est de l'information. Le seul moyen, il faut travailler cela. C'est la Bina. Bina, c'est faire attention, y penser, y repenser, ressasser. C'est comme quand tu lis une Gemara. C'est très clair dans la Gemara. Tu lis maintenant une Gemara. Tu as compris. Mais ta compréhension, elle est extrêmement superficielle. Tu verras que lorsque tu vas l'utiliser de nouveau avec quelqu'un, tu vas l'enseigner à quelqu'un, par exemple. Tu verras que tout d'un coup, tu vas comprendre beaucoup mieux. Ça devient beaucoup plus clair. Il y a des questions qui apparaissent. Si tu poses des questions, tu vois que tu commences à vivre les choses beaucoup, beaucoup plus, les vivre. La Bina, elle fait vivre la chose. Après, il faut encore date. Date, c'est une fois que tu as bien compris, il faut vraiment le descendre au niveau de mon action, de mon existence. Existentielle, ça c'est date. Date, c'est ribour. Date, toujours, c'est date, c'est la connaissance. C'est quoi connaissance? C'est comme c'est intéressant qu'en français, parler de naissance, d'accord? Alors, au niveau étymologique, c'est connaissance. Con signifie, c'est du latin, cum, c'est avec. Naissance avec. C'est-à-dire, c'est quoi le date? Date, quand tu as compris une chose bien, elle fait partie de toi. Elle est complètement à toi. Elle est acquise là. Pas là, là.
C'est la connaissance vécue.
Ça, c'est la connaissance vécue, très bien.
À quel moment on agit?
Le date.
Après avoir assimilé par la Bina?
Alors, Chochma, c'est l'information.
Où se situe l'action de plus en
Chochma, c'est l'information. Bina, c'est la réflexion intérieure, l'introspection de la chose. Le ressassement, le travail, c'est comme refaire une... C'est exactement la notion où on voit bien, c'est que c'est la page de Gemara. Quand tu la refais, tu l'expliques à quelqu'un, tu la refais plusieurs fois, tu prépares... Au bout d'un moment, tu la vis beaucoup plus. Tu peux la vivre. Tu as fait maintenant une grande soughia sur, je sais pas moi, sur le vol, d'accord? La soughia, tu la sais par cœur. Puis tu sors dehors, tac, tu es devant la même situation. Tu voles ou tu ne voles pas? Ah, là, il faut le date. Date, c'est ribo. Je branche maintenant ma connaissance. Maintenant, connaissance, d'accord? Elle fait partie de moi. Je vais la faire descendre au niveau existentiel. Ça, c'est le date.
C'est
ribo. C'est donc union entre la tête et le corps. Oui.
Pardon. C'est une fois que la Chochma s'est unie avec la Bina.
Non. Non. Il n'y a pas d'union entre Chochma et Bina. Chochma, c'est l'information. L'homme, il vient, il donne. Après, il part, on ne voit plus le terminer. Bye bye.
Il y a une union.
Hein?
Il y a une union.
Oui, il y a une union. Il a donné. On t'a donné. Le fait qu'on te donne, c'est une information. D'accord? Dans la Bina, c'est quoi la bina? Elle va, elle attrape l'information, elle la travaille. Elle la féconde. Elle peut laisser stérile. L'information est là. Ok. Tu sais que Dieu nous fait beaucoup. Oui, je sais. Voilà, ça va stérile. C'est stérile. Vas-y, travaille. Je vois avec mes deux yeux. J'imagine maintenant que j'avais un problème. Et puis, tu travailles cette chose-là. Combien de chassadés? Si on regarde, notre bouche n'arrêtera pas de dire merci à Dieu. Si on regarde, sur quoi je dis encore dire merci? Mais bon, je n'ai pas été chez le dentiste dernièrement, je ne suis pas à moitié aveugle, j'entends comme il faut, je marche sur mes deux pieds, je me lève le matin, je me couche, okay, ça manque des problèmes de Baruch HaShem. Baruch HaShem, je ne suis pas encore en train de crever de faim, mais tu comprends, il y a tellement de bonnes raisons. Ça, maintenant, il faut le travailler. Travailler, ça s'appelle Bina. Tu vas féconder l'information, tu vas la féconder, tu vas en faire un produit. Maintenant, à la fin, il faut, ça passe dans l'acte. L'acte, tu dis, alors quand on parle maintenant de reconnaissance, tu es reconnaissant, tu pries maintenant quand tu dis la bracha de reconnaissance, c'est modim. Modim anachnou lach. On reconnaît. Et donc maintenant, nos délecha, génération par génération, nos délecha, on te remerciera, al chayenu, pour notre vie. Al chayenu asher, biadecha, qui est dans ta main. Val shumotan apkudot lach, et notre neshama qui sont à tes ordres. Tes miracles qui sont quotidiennement avec nous. Tes miracles. Miracle, c'est plus qu'un miracle, c'est un miracle extraordinaire. Les choses extraordinaires que tu fais avec nous. Et les bontés. Qui sont tous les jours avec nous. Matin, midi, soir, on remerciera. Tu peux la faire comme ça et la tête. Elle se baisse automatiquement, comme dit, c'est marqué dans Chazal, qu'on doit remercier la tête qui cesse toujours de se baisser au bon endroit automatiquement. C'est sympa, hein? Toi, tu es en Olulu, tu es en train de rêver, je sais pas quoi, de tes affaires. C'est vraiment digne, la tête automatiquement, cesse se baisse. Il faut remercier la tête qui cesse de se baisser au bon endroit. Alors, ça, c'est rien. C'est rien.
Vous conseillez de prier le pneumo un moment dans la journée?
Oui, absolument. La prière, à l'origine, n'était qu'avec pneumo. Mais vu que nos mots ils sont pauvres, alors les prophètes nous ont créé une échelle qui s'appelle la prière. Une échelle que les prophètes ont mis sur pied, qui va de monde en monde, du monde de Asiya, Yetzira.
En dehors de la Kabbalah, quand je prie avec mes mots, j'ai un kesher plus direct.
Je te dis, c'est très bien.
Au niveau du ressenti.
Alors c'est très bien, il faut que tu aies ressenti. Maintenant, alors tu diras, je peux te prier qu'avec ressenti, pas besoin de la prière que institue Chazal. Je dis non. Cette prière qui est instituée par Chazal, ce sont les prophètes qui l'ont mis sur pied, et c'est une échelle qui va très 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 haut. Le problème est que très souvent on dit l'échelle, mais on ne monte pas dessus. Si tu dis l'échelle sans monter dessus, alors tu n'as rien dit, tu as mis une échelle mais tu n'es pas monté. Il faut que je monte. Monte, c'est-à-dire que j'ai l'intention. Il faut arriver à vivre les mots de la prière. Maintenant, le Nefesh HaChaim, les kabbalistes, ils te disent. Sache que même ce que tu vas vivre, les mots de prière, c'est très loin de ce que ça agit. Ça agit beaucoup plus haut. Le mieux, ils disent comme ça, c'est si possible. C'est très long comme travail. Mais si on a le temps de le faire, et il y a des gens qui ont le temps, on va certes certains endroits des brachot, certains brachot, voir les mots. Parce que chaque lettre en elle-même, elle va plus haut que ce que tu penses. Parce qu'il y a le sens simple, il y a les sens bobo et les lettres en elles-mêmes, c'est ce qui a créé le monde. Dieu a créé le monde avec les 22 lettres de l'alphabet. Ils ont été agencés par les prophètes qui savent ce qui se passe là-haut, et quand tu agis par ces lettres, ça c'est une action. Alors le mieux, c'est de penser la lettre.
Alors là, notre niveau, c'est Kavanah.
Oui. C'est les Kavanah de quoi? De Rabbi Noari? Absolument pas. Kabbalistique. De temps en temps, quelques mots par-ci par-là, commencer à s'habituer à les voir, le nom de Dieu par exemple. C'est très grand.
Je crois qu'on dit que la première bracha dans
la Torah, il faut imaginer. C'est bien, la première bracha, c'est la plus importante de toute la Amida. Si on n'a pas pensé d'après la halakha, si on n'a pas pensé ce qu'il faut, alors on doit en faire. Aujourd'hui, personne ne le fait parce qu'on a peur que la deuxième fois non plus tu vas jamais penser. Ni la troisième fois non plus. Donc, mais au niveau de la halakha stricte, c'est raté. La prière, elle passe pas. Donc il faut au moins la première bracha bien la faire. Alors, prends ton temps, prends la bracha, c'est-à-dire, moi je connais des gens qui font très longtemps la première, par tout le reste, ils font rapidement. Si tu as la première à la faire, alors, en voyant les mots, c'est très grand. C'est bien de voir noir sur blanc en plus. En flamme noire sur flamme blanche. Si possible, toi, c'est des choses, si possible. Le nom du Yud Kebab, tu peux voir le nom du Yud Kebab, si tu arrives à le voir entier, c'est qu'au niveau de ton âme, t'es bien. T'es bien. Et c'est marqué dans les livres, mais je ne sais plus. C'est qu'au niveau de ton âme, t'es bien. T'es bien. Et c'est marqué dans les livres, mais je ne sais plus parce qu'il y a quatre, côtés, il y a le, correspond, il y a quatre yesodot, quatre bases, d'accord. La terre, nous sommes créés avec la terre, le feu, l'air et l'eau, qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu, et qui correspondent à quatre qualités ou défauts qu'on a. La terre, c'est la paresse, c'est la force d'inertie. L'eau, c'est l'envie. Le feu, c'est la colère et l'orgueil qui vont ensemble. Et l'air, c'est la parole. J'en aura les paroles belles. On va parler comme ça.
Parler en l'air.
Voilà. Alors, si. Pardon ? L'eau, c'est l'envie.
L'eau, c'est la Torah et après, c'est l'envie.
En plus, tu ne sais pas, tu sens pas que l'eau, c'est l'envie.
Bon, on dit aussi que l'eau, c'est la Torah. Alors,
aussi, c'est marqué que celui qui...
Mettre l'eau à la
bouche. On a une envie des Torahs. Il n'y a pas de chose qui est plus envie que la Torah. Quand tu es branché avec la Torah, il n'y a aucune chose, aucun plaisir. Je parle de plaisir. En plus, tu sais pas, tu sens pas que l'eau, c'est l'envie.
Bon, on dit aussi que l'eau, c'est la Torah.
Aussi, c'est marqué que celui qui...
Mettre l'eau à la bouche.
On a une envie des Torahs. Il n'y a pas de chose qui est plus envie que la Torah. Quand tu es branché avec la Torah, il n'y a aucune chose, aucun plaisir. Je parle de plaisir. Plus grand que la Torah, n'existe pas. Tous les plaisirs de ce monde-là sont à côté du plaisir de la Torah. C'est comme de l'eau, quand on boit de l'eau. Pourquoi c'est une chose que je crois qui sont compréhensibles par elles-mêmes, non? Pourquoi l'eau, c'est l'envie? Pourquoi le feu, c'est la colère? L'eau, c'est tout dans le... Voilà, c'est tout dans le mouvement, dans la relation, dans l'épingle, là, c'est joli.
Hein. Et c'est le jeu des quatre éléments qui s'avale, qui se parle par le palais.
Ouais, touché très bien aussi, voilà. Donc si quelqu'un maintenant peut voir le nom de Dieu complet, Yudke Vavke, noir sur blanc, il faut qu'au niveau de son âme, de ces quatre, qui sont les sources de toutes les mauvaises qualités, il est nickel. Pour l'entendeur, shalom.
Concernant la Amida, c'est vrai qu'ils l'ont fait il y a très longtemps, et à l'époque tout le monde travaillait la terre. Mais aujourd'hui, quand on veut penser à la Parnassa, dans la Amida, on parle que de rosée, de choses comme ça. Je trouve que c'est assez loin, c'est vrai que des fois...
Non. D'abord, ça signifie des choses beaucoup plus grandes aussi, c'est certain. Mais même, prends ici en Israël, s'il ne pleut pas, c'est terminé.
On sait très bien que c'est pas grave. Parce que
t'as pas vécu des années de sécheresse ici en Israël.
On voit qu'il revenait des choses étrangères, c'est pas la fin du monde.
C'est la fin du monde. En Israël, quand il n'y a pas d'eau, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est facile d'amener un iceberg, je sais pas où, d'amener des paquebots d'eau de Turquie, ça se paye aussi. Ici en Israël, quand il n'y a pas d'eau, c'est vraiment la fin du monde.
C'est bien de ne pas avoir d'argent.
Mais l'argent, c'est la même chose. L'argent, il provient de la terre.
Et aujourd'hui, on ne fait pas le lien. Aujourd'hui, on travaille dans des sociétés de high-tech, on travaille dans l'informatique. La terre, on ne la voit pas, quoi. On ne fait pas le lien.
Ça ne se mange pas, la high-tech.
Non, c'est clair.
Mais... Ok, alors tu auras de la high-tech, mais il y aura la famine, dans le monde. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Hein,
d'accord, mais dans ce cas-là, on parle de... qui est de...
Rothschild, il est mort dans sa... enfermé dans sa... dans son coffre-fort. Qu'est-ce qu'il y a? Alors,
il manque de... pour la part personnelle. C'est pour l'agriculture en entier.
D'abord, bracha pour tout le monde. La bracha, on la bracha, ou pas ça aujourd'hui, elle vient par le biais des autres, c'est certain. On est en exil, donc ça passe par le biais des autres. Ça, c'est clair. Deuxièmement, comme je te dis, au niveau de la prière maintenant, quand on dit « Ten tal matar livracha », on te parle aussi des choses qui sont très hautes. C'est certain.
Excusez-moi, vous entendez quoi par voir le nom de Dieu?
Imaginez, en noir sur blanc, « Yud » et puis « He » et puis « Va » et puis « He ». Tu regardes, tu prends un ciseau, tu arrêtes, après tu fermes les yeux, tu le vois. Tu mets les yeux ouverts.
C'est ridicule de s'entraîner quand même.
Pourquoi? C'est très bien.
S'entraîner?
Oui.
Moi j'entends que c'est ridicule, c'est pas là-dedans pour
c'est très bien s'entraîner.
Parce que
d'abord c'est marqué dans le Mishnah Berurah que c'est bien, et c'est bien parce que ça le nom de Dieu, le Shem Etzem, le vrai nom de Dieu, comme Yudke Vavke, il a une puissance de sainteté qui est très grande. Et quand tu le vois, c'est ça une action.
Ça va, tout le monde le voit, non?
Pardon?
Tout le monde le voit, non?
Ouais. Combien de temps la question?
Maintenant.
Toi tu es un grand sadique. Alors c'est bien, si dans l'optique, tu le vois, alors c'est marqué dans le Mishnah Berurah. Hein. C'est bien de le voir avec les points du mot ir-a. Ir-a, donc le yud avec un i, le hey avec un shva, deux points, et le vav avec un kamat. Tu vois ça aussi? C'est bien.
Alors, j'ai le droit de penser à ce qu'il écrit réellement.
Pardon ?
Si je lis les lettres comme elles sont écrites, est-ce que j'ai le droit de le penser ? Enfin, je le lis ou je le pense ? C'est quoi le problème ?
Il ne faut jamais prononcer ce nom, enfin, très attention.
Ouais, et le penser, c'est un problème ?
Parce qu'il n'y a aucun problème, c'est une mitzvah. Premier chapitre, le premier alinéa du Shulchan Aruch.
On peut imaginer...
Mitzvah de penser le nom de Dieu.
Comme il est écrit.
Non, mais on peut imaginer comment est-ce que ça se prononce.
Ça se connaît, tu connais pas les lettres, les voyelles. Tu peux le prononcer A-A-A, I-I-I, O-O-O, O-U-U, d'accord.
Mais non, il y a quand même classique, il y a une ponctuation.
Le vrai nom de Dieu original, les points. Quelqu'un m'a dit un temps qu'il pense que c'était I-I-I, je ne sais plus. Bon, je sais pas ce que, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas. Il y a des grands qui le savent, c'est pas. Le savent certainement. Bon, mais faire attention quand on y pense ou pas le prononcer. Ça, c'est marqué. Celui qui prononce le nom de Dieu, il n'a pas peur au monde futur. C'est une chose qui est grave.
Prononcer avec les lettres, avec les
manchés. Prononcer Yud, et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey, comme je dis, mais sans dire et puis.
Ah, simplement
voilà.
Comme ça.
Ou par exemple, si tu le dis, par exemple, on peut le dire, des fois on le dit sans penser, par exemple, dans la prière, tu peux dire en français, par exemple, en hébreu, cette chose-là octora des grands problèmes. Il y avait Bayot ou de l'autre Merot. J'ai dit le nom de Dieu maintenant. Ça a marqué ou pas ? Si, j'ai dit. Mais c'est une phrase. Ça, vu que je ne prononce pas, je ne pense pas prononcer le nom de Dieu, ça va. Je peux reprendre ça.
Je prononce par exemple le nom des témoins de Java.
Java, ça va.
Non, mais c'est un pays.
G avec un G. Je crois que ça va. G. C'est pas I. G, ça va. Bon, c'est bien de s'éloigner de toute façon. C'est pas bien de jouer trop avec ça.
Mais quand vous avez dit Yud, ensuite de dire Hey, c'est-à-dire même sans ponctuation, même sans voyelle.
On dirait...
Juste prononcer les lettres. C'est vrai
que... Oui, même les lettres. Lire les lettres. On peut le dire comme je dis en un mot. Tu le lis. Comme on dit par exemple la prière. Abaye hava mesader sedar macham digma. C'est marqué, il faut s'arrêter un peu entre les deux, parce que si tu n'arrêtes pas, Abaye, Hava Mesader, etc., ça fait Yé, et puis Abba, ça c'est le nom de Dieu. Alors, je dis et puis entre les deux, d'accord, on a marqué. Ah, quelqu'un il peut se tromper, hop, j'ai la prononcé, tac, attention. Moi je vois avec ça. Alors, c'est une façon comme ça, ou le lire en lettres, dire Yud, et puis Hé, hey, et puis va puer sans le et puis. Ça, c'est oui, c'est considéré comme avoir dit le nom de Dieu, absolument.
Et si on dit
Ké, on va. Yud Ké, Vavké, ça va, tu peux dire. Yud Ké, Vavké. À la place de Ré, tu dis Ké.
Si à la place de Ké, on est
né. Ça va plus. Bien sûr. Dire les lettres, tu as dit. Dire les lettres du nom de Dieu, tu as dit le nom de Dieu.
Sans la prononciation.
Ça fait rien. C'est une prononciation.
Mais c'est bien avec.
Le nom de Dieu, on peut le développer. Tu le grandis. Comment tu veux dire ? Je peux le lire comme un mot, on va dire un mot. On va dire Gary, on prend ton nom, Gary. Gary, d'accord. Alors je peux dire Gary, c'est Gary. Je peux dire Gimel Resh Yud. C'est aussi dire ton nom. J'ai dit trois lettres. Je peux faire encore plus. Gimel, c'est Gimel Mem Lamed. Resh Yud Shin, Yud Yud Vav Dalet. Et comme ça jusqu'à l'infini. Ça s'appelle les Milouim, Milouim de Milouim. C'est les Milouim kabbalistiques qui jouent énormément là-dessus. Bon, on a, mais...